Pourquoi vous les aimez, les chats ?
Moi, je les trouve beaux d'abord, c'est vraiment un animal. C'est beau, c'est vraiment. C'est, ça marche. Je sais pas, leurs yeux, leurs dents, enfin tout. Moi, je suis vraiment complètement raide amoureux. Je vois un chat, je craque. Enfin, je peux pas ne pas en voir un sans m'arrêter et tenter de le caresser, même s'il saute dans la rue, partout, qu'il soit de quelques couleurs qu'il soit, d'ailleurs des gris, des tigrés. Je les trouve tous beaux. Je sais pas pourquoi. Même ceux qui sont un peu SDF et qui vivent. J'en ai un pas loin de chez moi, un peu borgne et tout, mais sympathique.
Ouais. Et les noirs ? Les chats noirs.
Les chats tout noirs. Ouais. Il paraît qu'il n'y en a pas. Il paraît qu'ils ont tous une petite tache blanche comme ça. Mais enfin, ouais, j'aime beaucoup, bien sûr.
Vous n'êtes pas superstitieux
ça. Non. On prétendait que c'était des sorcières réincarnées. Ouais. Et quand ils étaient tout noirs, on les tuait. Donc, paraît-il, Dieu a mis son doigt sur le poitrail des chats noirs pour dorénavant qu'ils aient une petite touffe de poils blancs et ne plus être flingués.
Pour les sauver, oui.
Voilà, c'est une belle légende.
Pourquoi vous aimez les chats ?
Je ne sais pas.
J'ai toujours eu des chats depuis toute petite. J'adore ces animaux. J'adore jouer avec eux. Et j'adore leur indépendance. Et justement, là, on voit un chat qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne va pas se laisser attraper et qui ne va pas obéir aux ordres. Donc ça, j'aime bien cet aspect-là.
On est donc accroupis dans le studio en essayant d'amadouer Lewis. Est-ce que vous pouvez décrire Lewis ?
Oui, c'est un petit chat qui a déjà beaucoup de caractère et qui sait ce qu'il veut. Et là, il a trouvé la bonne planque.
Et il est derrière le piano.
Ouais, c'est pas gagné. Hein.
Le vôtre, il s'appelle Willis. Il a quoi comme trait de caractère ?
Pareil. Il est aussi insupportable, sauvage. Il vient que quand il a faim ou quand il veut des caresses. Puis après, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il nous regarde d'un air méprisant et hautain. Et voilà. Mais c'est ce que j'aime bien chez les chats, quoi. Mais j'aime beaucoup les chiens aussi, hein. J'ai pas de préférence, en fait, j'aime tous les animaux, mais les chats me font bien marrer, et graphiquement, c'est toujours sympa à dessiner. Donc.
Là, Lewis nous a échappé, il est parti. On va essayer de l'approcher. Il boit son eau derrière le piano. Comment il faut faire pour approcher un chat ?
Non, ça va. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est pas comme avec les chiens. Ils sont juste un peu plus craintifs. C'est un instinct de survie. Donc, ils fuient quand on les approche. Moi, mon chat est toujours aussi sauvage. Pareil qu'au début, quand je l'ai ramassé dans la rue. Après, j'ai un autre chat qui a un caractère complètement différent, qui est beaucoup plus docile et sympa. Mais bon, ils sont différents. Hein. Ouais, bon, ils me font beaucoup rigoler, en tout cas.
Il faut lutter pour les droits démocratiques, les droits humains. Il faut lutter contre l'injustice économique. Il faut lutter contre l'oppression des femmes. L'avenir est là.
Il est 23h et chacun son moment de courage. Le courage fait sauter d'un siècle à l'autre, d'une époque à l'autre, il défie le temps. On dit « trouver le courage », mais le courage ne se trouve pas, c'est un effort et parfois ça fait mal. Bachelard le définissait ainsi « le courage de fixer le soleil ». À toutes les forces de la nature, le poète conseille de sortir de terre, de vaincre un chaos, de fixer enfin le soleil. C'est l'effort des yeux ouverts donc. Quand on vit dans une dictature pendant 23 ans, on finit par avoir, soi et ce monde-là, à peu près le même âge, en apparence. On pourrait finir par se ressembler. Le monde croit qu'on vieillit avec lui, mais en fait, depuis longtemps, on l'a dépassé. Et un jour, il y a urgence. Nadia Chiari a dit « Je n'ai pas choisi d'être dessinatrice de presse, c'est le dessin de presse qui m'a choisi ». Depuis petite, elle aime écrire sur les murs des mots comme « Réveille-toi » ou « Insoumission ». Des messages de rue pour tout le monde. Elle écrit comme les enfants, c'est-à-dire en débordant, c'est-à-dire surtout là où il ne faut pas, sur les papiers importants, sur les murs, sur les tables. Les enfants de la dictature ont débordé et sont devenus des héros du monde moderne. Il y a eu le 13 janvier 2011, un dernier discours de Ben Ali, c'était le couvre-feu. Nadia Chiari a son carnet sur les genoux et elle passe le relais. Willis from Tunis est né, un chat un peu rond, malicieux. Il commente, il est insolent, il suit la révolution, il se passionne, il est de plus en plus vivant. Il a au début une dizaine d'amis et puis des milliers. Ce sont des dessins comme des témoignages, des dessins comme du courage. Au début, personne ne sait qui parle et qui dessine. C'est Ciné qui dira « Nadia n'a peur de rien ». On peut donc naître avec une révolution. Le chat, c'est Nadia qui dit « Avant, on avait un flic dans la tête ». Willis, lui, l'a dégagé dès le premier jour. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer, écrivait Beckett. On continuera, donc. Toute la journée, votre radio a été dessinée par des dessinateurs de presse du monde entier, depuis très tôt, 6 heures ce matin. Et c'est bon d'entendre la voix de ceux qui ont vécu un printemps. La radio aussi écrit sur les murs et déborde, c'est-à-dire dessine là où il ne faut pas, sur les papiers importants, sur les murs, sur les tables. Des messages de rue, des messages pour tout le monde, des messages immenses. Pour sauter peut-être ensemble d'un siècle à l'autre, pour fixer le soleil et trouver le courage, parce qu'il y aura toujours des mondes à réveiller. Chat, Lewis, qui fera ce qu'il voudra en studio. Un chat insoumis, indépendant. Si vous entendez le son d'une clochette, ce sera lui. Il y aura notre vrai chat invité, Willis from Tunis, et celle qui le dessine, Nadia Chiari, fan de Rembrandt, de Daumier, de Ciné, du Velvet Underground ou encore de Marjane Satrapi. Willis from Tunis est apparu sur Facebook le 13 janvier 2011, soir du dernier discours de Ben Ali, et depuis la Révolution, il témoigne. Au téléphone, il y aura une autre voix militante de Tunis. Et à la musique en studio, il y aura le soleil affixé de Yeli Yeli. Vous avez quel âge, Nadia Chiari ?
42 ans.
Non mais quand vous écoutez,
j'allais toujours 42 ans.
Non, j'allais pas commencer par une question si frontale, mais j'allais demander en écoutant cette musique et Bob Marley, vous avez quel âge? Là, ça vous replonge dans quelle époque?
Ça me replonge dans mon enfance parce que mon père avait un magasin de disques quand j'étais petite, avenue de Paris à Tunis, dans le centre-ville, et il vendait des vinyles et mon école était en face, donc je passais tout mon temps dans le magasin et j'écoutais toute cette musique et voilà quoi, je faisais mes devoirs sur le comptoir, je passais tout, jusqu'à ce qu'il ferme la boutique, j'étais avec lui, avec mon père, et donc ça m'a nourri beaucoup la musique, je peux pas m'en passer.
Donc là vous avez 10 ans, disons, et je voulais que vous lisiez justement à cette époque-là, quels étaient vos premiers dessins?
Alors, mes premiers dessins, je m'en souviens parce que ma mère les a gardés, Ça a commencé par une bande dessinée sur plusieurs pages numérotées, l'histoire d'un ver à soie qui mangeait des pommes et des fraises qui s'empiffraient pour devenir un papillon. Le dessin, c'est le premier langage avant la parole. À partir du moment où on me donnait une surface où je pouvais dessiner, je dessinais comme n'importe quel enfant à qui on donne un feutre ou un crayon. Il gribouille par terre, sur les murs, sur des papiers importants. C'est ce que je faisais, je dessinais partout, comme plein d'enfants, pour tracer, voir des formes apparaître. J'adorais dessiner. Je ne dessinais pas forcément très bien, et encore aujourd'hui j'ai un peu de mal. Mais ça m'a permis de m'évader, de m'éclipser. Encore aujourd'hui, quand je dessine, je pense à autre chose, je ne suis plus là où je suis.
Nadia Khari a grandi dans le quartier Lafayette, quartier populaire du centre de Tunis. Il n'y avait pas forcément d'argent, mais il y avait des livres, et dans la famille, il y avait des disques aussi. Dans le magasin de disques de votre père, vous avez quel souvenir ?
Des souvenirs géniaux, parce que c'est l'enfance, parce que j'avais quand même pas mal de liberté. J'étais un peu dans le quartier, dans la rue, jouer au foot.
Avec les garçons ?
Oui. Au début, mon père s'est un peu formalisé, parti voir ma mère et tout, mais elle lui a dit « Tu l'as vu ? » Elle s'amuse. Donc, il a vu que j'étais assez indépendante, assez jeune, donc il m'a laissé un peu tranquille, quoi. Et ses souvenirs dans le magasin étaient extra, parce que tout le quartier venait passer à la boutique, passer au magasin. En fin de journée, il y avait un bar pas très loin, des messieurs un peu éméchés venaient danser. Donc, c'était assez comique, quoi. Il y avait une belle atmosphère.
Et vous dessinez pour vous évader ? Vous vous évadiez de quoi ? Pourquoi vous rêviez d'être là, ailleurs ? Vous rêviez à quel ailleurs ?
C'est des ailleurs qui n'existent pas. C'est dans le monde de l'enfance. Je voulais être une fée, par exemple. Donc, je savais que ce n'était pas possible. Mais je me disais, on ne sait jamais. Si j'y crois fort, j'y arriverai. Donc, non, c'est vraiment le monde de l'enfance, avec des animaux un peu bizarres, des personnages bizarres aussi. Pas réels, fuir peut-être une réalité. C'est à l'adolescence, peut-être, où j'ai pris vraiment... J'ai réalisé plus que ce qu'était la réalité. Mais avant, non, j'ai eu une enfance assez sympa quand même.
Pour vous mettre en condition, j'avais deux petits cadeaux, disons, pour vous replonger dans cette époque-là. Alors voilà, ça c'est le premier.
Génial. Merci.
Et alors ça, c'est le deuxième. Un paquet de pistaches et une bande dessinée de Lucky Luke.
Ah oui, mais c'est complètement ça. Sauf que c'était Gaston Lagaffe. Ah. Mais je lisais aussi... En fait, quand j'étais à peu près sage pendant la semaine, le samedi soir, en fermant la boutique, mon père m'emmenait sur l'avenue Habib Bourguiba, donc l'artère principale de Tunis, où il y avait des kiosques à journaux qui vendaient des bandes dessinées aussi. Et il me disait, choisis celle que tu veux. Et c'est vrai qu'il y avait Lucky Luke, mais il y avait aussi Gaston Lagaffe, Astérix. Mais Gaston Lagaffe restait... mon préféré. Et si j'avais vraiment été super sage, j'avais mes pistaches salées, et donc je passais une soirée géniale à lire et re-relire et à lire à haute voix, etc., et à grignoter mes pistaches salées.
Vous pouvez les ouvrir là pour passer une soirée géniale.
Allez.
Il paraît que vous aviez aussi un oncle qui a beaucoup compté pour vous, un oncle avec lequel vous dessinez.
Qui compte toujours aujourd'hui beaucoup, Salah, oui, mon oncle qui dessinait super bien et qui était un peu ma babysitter aussi quand mes parents voulaient sortir. Et il m'a appris à dessiner, mais bon, il me demandait toujours « Alors qu'est-ce que tu veux que je te dessine ?» Et moi, je lui demandais un monstre, une monstre en fait, en réalité. Et en arabe, c'est Roula. Donc c'est mon surnom qui est resté jusqu'à aujourd'hui, la monstre. Et j'aimais bien, oui, un peu le type monstrueux, extraterrestre. Je pense que c'est aussi le lien qu'il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, du dessin avec les peurs. En fait, dessiner sa peur, c'est un peu la dominer, c'est l'avoir en face. Et c'est peut-être pour ça que je demandais une monstre.
Des ogres, des loups.
Ouais, toutes sortes de créatures bien effrayantes qui, une fois dessinées par lui, me faisaient rire. Donc, je dessinais après, il m'a appris plein de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on a un rapport génial, quoi, parce que c'est quelqu'un de libre et généreux.
Il vous a transmis quoi, cet oncle ? Est-ce que c'était un homme féministe, par exemple ?
Ah oui, féministe, mais c'est aussi cette joie de vivre. Il a toujours une joie de vivre, rire dans toutes les situations, faire le fou, provoquer un peu aussi, mais avec humour. C'est un spécialiste des blagues, il sait très bien raconter les blagues, il a même un carnet où il inscrit toutes ses blagues et tout. Et quand il raconte une blague, il faut qu'il se lève et qu'il la mette en scène, etc. Donc c'est plus marrant de le voir lui raconter que la blague en elle-même finalement. Mais oui, c'était une personne avec qui j'aimais passer mon temps. Et avec qui j'aime toujours passer mon temps.
Et à partir de quel moment vous êtes dit, ça peut être un métier où j'ai envie de dessiner, de continuer et d'en faire ma vie ?
Très tôt, quand j'étais adolescente, j'adorais dessiner. Je dessinais tout le temps. Et j'ai décidé de faire des études d'art. Et j'étais vraiment convaincue de vouloir faire ça toute ma vie, tout en ayant quand même une lucidité par rapport aux débouchés professionnels. Mais j'y croyais, je me suis dit non, je vais y arriver, quoi. Et j'ai continué parce que comme je ne pouvais pas, j'arrivais pas à vivre de mon travail artistique, j'ai enseigné. Ça me permettait de rester aussi dans ce que j'aimais, mais aussi de rester en contact avec du monde. J'aime bien être en contact avec des jeunes, échanger, j'aime le contact humain, donc ça me plaît bien comme boulot, quoi.
Quand vous êtes partie au début des années 90 étudier les beaux-arts en France, ils connaissaient quoi de la Tunisie, du quotidien que vous viviez en Tunisie, les élèves avec qui vous étiez ?
Oh, pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'au niveau des informations, il n'y avait pas grand-chose qui filtrait. Donc c'est un peu normal qu'ils ne savaient pas. Donc j'avais droit à des questions assez rigolotes sur le fait, est-ce qu'il y a des lions en Tunisie ? Donc moi, j'allais dans leur sens en rigolant. Je dis oui, il y a des lions. Le soir, quand je dois aller à l'école le lendemain, je fais attention aux dunes parce qu'elles se déplacent la nuit et je me perds. Enfin, j'ai aussi dit qu'on avait un ministère du chameau. Enfin, mais bon, après, j'essaie d'expliquer la situation, mais c'est vrai qu'il y avait une méconnaissance de la Tunisie. Ouais.
Et pour expliquer la situation, pour dire la réalité, qu'est-ce que vous disiez ?
Je racontais la présence policière, surtout en fait ce qu'on vivait, quoi, au jour le jour. Et puis un peu voilà, la mafia au pouvoir. Mais ils me disaient, certains étaient déjà venus en Tunisie. Ils me disaient, mais nous, on n'a pas vu ça. On est venus, on a passé nos vacances et tout. Ça se passait plutôt bien. Je fais, oui, bien sûr, vous. Mais faut voir ce que c'est que d'être contrôlé régulièrement par la police qui a tous les pouvoirs et qui en abuse.
Et à l'époque de Ben Ali, c'était quoi les blagues, l'humour qui pouvaient concerner le pouvoir et qui étaient possibles, ou en tout cas qui existaient ?
Il y avait énormément de blagues, et heureusement d'ailleurs, c'était une soupape à ce moment-là. Il y avait énormément de blagues autour des tabous, le tabou suprême, Ben Ali, sa famille, etc. Donc il y avait énormément de blagues pour se moquer de lui, de son système, beaucoup de blagues aussi sur la police. Donc tout ce qui nous opprimait, quoi, on essayait d'en rire, même si je me souviens que la dernière année, pratiquement les quelques derniers mois avant la Révolution, il n'y avait même plus de blagues, de nouvelles blagues en tout cas. Et donc ça, c'était symptomatique quand même d'une pression où on n'avait même plus envie de rire, quoi. C'était plus possible, on a trop supporté.
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب التونسي أكلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس أكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات أكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير عميق نعم تغيير عميق وشامل وأنا فهمتكم نعم أنا فهمتكم فهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم وفهمت الكل لكن
ça vous fait rire Nadia Kiari.
C'est un bon sketch, faut dire quand même.
Nous sommes donc le 13 janvier 2011 et vous êtes devant votre télévision. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là sur votre canapé?
Bah, c'était le couvre-feu, on était enfermés à la maison avec mon mari et mon beau-frère et on regardait ce qui se passait. Il avait déjà fait d'autres discours auparavant, hein. Donc celui-là, la différence, c'est qu'il parlait en tunisien, pas en arabe littéraire. Donc là, d'un seul coup, ça a changé, le ton changeait, on sentait la tension aussi.
Pour se rapprocher un peu du peuple, enfin.
Oui, pour parler le langage du peuple. Il aurait dû le faire depuis longtemps, hein. Il aurait dû commencer comme ça d'ailleurs. Parce que c'est vrai que ses discours auparavant étaient plutôt soporifiques. C'était tiède, c'était. Et là, bon, il promettait plein de choses, plein de choses. Bon, on n'y croyait pas une seule seconde.
Il parlait de la liberté, enfin de la levée de la censure, d'une certaine liberté d'expression.
Il parlait oui, pour Internet déjà, parce qu'on avait des pages, enfin on était cyberfliqués en permanence, et aussi de la censure dans les journaux, dans les médias. Et donc il promettait justement de lâcher prise, de laisser les gens s'exprimer, mais on pouvait pas y croire, c'était pas possible. Et après avoir installer ce système aussi bien ficelé, le démanteler par enfin, la même personne fasse le travail inverse, ça, c'est très étonnant, quoi. Donc là, oui, ça m'a déclenché et je l'ai pris au mot et j'ai commencé à faire. En fait, non, au départ, j'ai vraiment fait des dessins pour mon mari et mon beau-frère qui était plutôt palichon, qui était pas très très bien parce que c'était assez tendu comme situation. Et donc je voulais faire des dessins pour les faire sourire parce que j'aime pas voir les gens que j'aime pas bien, quoi. J'ai toujours fait ça, des dessins pour faire rire mon entourage. Mais je pense que ce qui m'a déclenché, donné envie de les publier sur Internet et de créer un profil, c'est que juste après le discours, on a diffusé des images à la télé des partisans de Ben Ali qui défilaient sur l'avenue Habib Bourguiba en l'acclamant dans des voitures de location. Et c'était une énorme mise en scène grotesque. Et faire ce discours et après organiser ce cirque, c'était très humiliant. Et je pense que c'était l'humiliation de trop. Et voilà, j'ai fait ces dessins parce que tout ce qu'il disait dans le discours, c'était du pipeau, quoi, s'il continuait à fonctionner comme ça.
Et le premier chat, le premier Willis from Tunis,
c'est Ben Ali, qui dit « Je vous ai compris » à des souris qui sont très contentes que le prix du fromage est baissé. Parce que certaines personnes disaient « Oui, mais écoute, il propose des choses pas mal quand même, il est bien. » J'étais là, j'étais très très sceptique.
Il y a un dessin, alors on a plusieurs dessins sous les yeux, mais il y en a un qu'on peut peut-être lire qui est assez drôle. Lundi 24 janvier 2011, dans tout Tunis, les manifestations, sit-in et marches se poursuivent.
Oui. C'est donc un chat qui demande le chemin à un autre, qui lui dit « Excusez-moi, le chemin pour aller à la gare, s'il vous plaît. » Et l'autre lui répond « Bon, tu prends à gauche avec la manif de l'UGTT, après tout droit avec la manif de la caravane de la liberté, ensuite tu contournes la voiture en feu, et à droite avec la manif de flics, là, deuxième rue après le rond-point où les gens se prennent en photo sur un tank, et hop, tu suis la manif de soutien au gouvernement, tu te bouches le nez à cause des lacrymos, et tu évites la manif islamiste, et tu y es. » sortir dans la rue et s'exprimer, c'était fantastique. C'est génial. Et ça fait partie du processus démocratique de se réapproprier son espace et de pouvoir s'exprimer en place publique.
Sans peur.
Sans peur, oui, parce qu'avant, on était planqués quand on voulait discuter. On démontait carrément les téléphones portables parce qu'on pensait que c'était des mouchards. Donc, on n'avait pas confiance dans les chauffeurs de taxi, l'épicier, les gens, parce qu'on dit qu'ils peuvent nous balancer. Et c'était une réalité aussi. Hein. Je veux dire, Ben Ali, son système était bien installé, mais aussi grâce à une partie de la population qui le soutenait, qui était très zélée et qui ont vraiment permis à Ben Ali d'avoir les pleins pouvoirs. Quoi.
From Tunis, le chat est né. C'est donc le moment d'appeler Tunis et votre ami militant Aziz Amami. Aziz, vous êtes avec nous?
Oui.
Je crois que vous aviez, pour commencer, une première image, une première impression du chat quand il est né en 2011.
Ah, en fait, je me rappelle très bien du dessin du « Je vous ai compris ». Ça m'avait saisi. Sur le moment, je venais juste de sortir de prison le 13 janvier, c'était vers 21h. On a trouvé refuge quelque part dans une maison qui est dans le village qui est près de la prison. Et je suis arrivé à me connecter après 2 heures d'essai de récupérer mon compte. Et sur la page d'accueil, j'ai vu ce chat, le chat de Ulysse.
Sans savoir qui se cachait derrière.
Oui, sans savoir qui est caché derrière. Je me suis abonné, je me suis mis à envoyer des messages à Willis et dans la tête, je gardais l'idée que c'était un gamin de 17 ans.
Mais c'est le cas?
Oui, c'est ce que j'ai découvert après. Pour moi, c'était un nouveau moment en Tunisie. On n'avait pas l'habitude de la caricature, on n'avait pas l'habitude du dessin, on n'avait pas l'habitude de tel genre d'humour raffiné aussi. Et c'était l'un des moyens qui a fait que nous, Tunisiens, on est petit à petit devenu notre propre espace d'être et d'expression. Tu vois. Et puis, on s'est rencontrés, moi et Nadia. Et ma première réaction, c'était « Tiens, t'es pas un mec.
» T'es pas un mec et t'as pas 17 ans.
Ouais. Je lui ai dit « T'es pas un mec, t'as pas 17 ans. » Je me rappelle qu'elle m'avait répondu par un dessin. Je le garde toujours, d'ailleurs.
C'est vrai?
Ouais.
Et il disait quoi, le dessin?
Une seconde. Faut que je le cherche, une seconde.
On peut dire des gros mots à cette heure-ci, c'est pas grave.
On peut tout dire.
Ah, le voilà. Je pensais que tu étais un mec de 17 ans, Ulysse. Eh ben non, je suis bien pouffia et je t'emmerde. Et en plus, elle avait caricaturé mon t-shirt. Je portais le t-shirt plus de sexe, moins de Rolex. Plus de Rolex, moins de sexe. Avec une caricature de T-News dessinant Sarkozy.
Exact.
Mais donc, pour moi, Willis, c'était le chat. C'était l'un des premiers enfants de la révolution tunisienne.
Willis, le chat, est donc né. C'est le moment de le célébrer et de le chanter. En studio, Lewis, le chat à clochette, se balade. Nadia Kiari dessine. Et Yeli Yeli est prête. Son premier disque, c'est comme un beau mélange de mémoire et de futur, de ce qu'elle a hérité et de ce qu'elle est devenue. C'est intime, c'est en musique avec la complicité de Pierce Faccini. Faire des ponts entre le courage des parents et celui des enfants. C'est chanter aussi dans la langue d'origine de sa mère, le Kabyle.
Je suis Yeli Yeli dans Backstage avec Aurélie Charon. C'est la journée, la radio dessinée sur France Culture.
Thank you.
Je me suis amusé, j'ai trouvé Inch'Allah, ouais. Un arabe qui fait sa prière. Il est à côté de Shalom, où le juif a le chat juif a la queue en forme de chandelier à sept branches. Mais quand on les a coupes, ça fait, c'est rigolo. Quoi.
Ouais,
pour j'ai fait le tchador aussi, bien sûr, la chatte voilée. Puis j'ai fait, alors, il y a les chats qui restent un peu incompréhensibles pour les plus jeunes. Il y a le chabanais, j'avais fait, ça m'avait amusé. Mais,
ouais.
Mais personne, beaucoup de gens ont oublié que c'était le nom d'un célèbre bordel. Avant-guerre, ouais. Que Marthe Richard a fait fermer. Donc moi j'ai fait Chabanais, j'ai fait une pute avec des jarretières, comme ça, un peu aguichante. Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, qu'est-ce que c'est, papa, les mômes qui disent, c'est quoi Chabanais?
Il faut expliquer après.
Ça c'est le chat selon Ciné. Et le chat Willis from Tunis dira « Fin d'une république bananière, grâce au suicide d'un vendeur de bananes, il y a une justice. » Willis voit que les Tunisiens se débrouillent comme ils peuvent, toute armée bonne pour se défendre après la révolution. Parfois il y a un babilis, une baguette de pain, une manette de jeux vidéo. Nadia Kiari s'amuse avec l'organisation parfois chaotique de l'après. Nadia Kiari, je crois que vous avez dit janvier 2011, les mois qui ont suivi, c'était les plus beaux mois de ma vie. Pourquoi ?
Dès les premiers temps, déjà, les premiers jours, malgré l'angoisse, malgré la violence de ces moments-là, malgré la peur, il y avait une vraie solidarité entre les Tunisiens, une vraie entraide. On était ensemble contre un seul ennemi. Et les mois qu'on suivit étaient géniaux, juste avant les élections, en fait. Les élections sont arrivées trop tôt. C'est une première confiscation de cette révolution. Et pendant ces mois-là, on était libre de peindre, dessiner, chanter, s'exprimer. On croyait tout possible, tout était possible. Même si on voyait que y avait des tentatives de récupération politique par-ci, par-là, des opposants qui étaient à l'étranger, qui revenaient au pays, qui trouvaient tout cuit, c'était super. et qui voilà voulait prendre la part du gâteau quoi. Et moi j'aurais pas eu besoin en fait d'élection, j'aurais voulu continuer comme ça parce que on faisait connaissance tous les Tunisiens, on se rencontrait enfin réellement, on pouvait parler ensemble au café, on pouvait parler de politique à haute voix. Et d'ailleurs, oui, il y avait des débats, ça crie, ça, je trouve ça génial, cette énergie-là. Bon, encore aujourd'hui, ça continue, mais la division est venue une fois que voilà, on a, les campagnes électorales ont commencé et les politiques ont joué sur la division parce qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ça fonctionne, quoi. Diviser pour mieux régner. Et donc, on a divisé les Tunisiens entre voilà, les méchants, les gentils, les bons musulmans, les mauvais musulmans, etc. Et on est tombé dans du blabla sans concrètement penser à l'intérêt général, quoi. C'était des intérêts partisans et les Tunisiens, maintenant, on n'est plus solidaires, malheureusement. Et donc je garde de cette période-là qui était à la fois très dure, mais en même temps géniale. On se levait très tôt le matin, à 4 heures du matin, pour aller investir les maisons pillées des familles du président déchu, pour aller leur refaire la déco, peindre sur les murs, dire ce qu'on ressentait. Et oui, c'était une période extraordinaire. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait autre chose depuis, mais c'est vrai que cette énergie-là, j'aimerais la retrouver.
Dans un des dessins de Willis, il décrit justement un quartier avec les barricades de pots de fleurs, cette espèce d'organisation un peu spontanée et finalement presque naïve, mais comme vous dites, solidaire, vrai.
Oui, non, moi, dans mon quartier, on avait la barricade la plus écolo. on avait rien pour boucher la rue, donc on a emprunté à notre voisin qui est laborantin, enfin, qui avait des gros pots de fleurs. On les a mis pour boucher la rue. On a mis une corde et puis on a regardé. On s'est dit, bon, ils vont vraiment avoir la trouille, les miliciens, en voyant ça. Une corde et des fleurs. Mais on était ensemble, armés de manches à balai, enfin, tout ce qu'on pouvait trouver sous la main et. Et on était ensemble, c'est ça le plus important.
Et le fait de commenter en temps réel, chaque jour, presque, avec Willis from Tunis, ce chat, qu'est-ce que ça permettait d'évacuer la peur parfois, ou le stress, ou d'être dans l'action ou de...
C'est variable. Je sais qu'au début, c'était pour oublier la boule au ventre. C'était plutôt chaotique. On ne savait pas trop ce qui se passait exactement. Mais et puis même quand l'avion de Ben Ali a décollé, j'y ai pas cru quoi. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible aussi vite. Et encore aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé exactement, ce qui a provoqué sa fuite en Arabie Saoudite. Rien n'est encore clair. Et non, dessiner, je l'ai fait. À chaque fois, j'en ai éprouvé le besoin parce que il y a des choses qui m'énervent, que je trouve absurdes. Il y a des paroles de politiciens ou des événements qui se passent et qui peuvent me révulser, m'énerver, ou alors des fois tout simplement j'ai envie de dire une connerie, j'ai envie de me marrer et puis je le fais quoi.
Vous disiez que vous inspiriez, ou en tout cas que les dessins de Daumier vous inspiraient par exemple.
Oui, c'est parmi les premiers dessinateurs que j'ai découvert assez jeune. Mon père m'avait offert un bouquin avec ses caricatures, avec ses visages et tout. C'est le trait qui me fascinait beaucoup, parce qu'un simple trait, je voyais que ça pouvait représenter une personnalité. On comprenait tout de suite la personnalité, même si je ne connaissais pas du tout la personne représentée, mais j'arrivais à capter ça, et je trouvais ça très très fort.
Et le fait d'être caché au départ, après vous avez révélé votre identité, mais Aziz Amami le disait au téléphone tout à l'heure, je pensais que c'était un jeune Tunisien de 17 ans et beaucoup ont pensé que, en tout cas, c'était pas une femme et que c'était peut-être un jeune qui s'amusait à dessiner. Ça vous a protégé au début? Est-ce que ça vous a amusé justement de...
Non, moi je l'ai fait par vieux réflexe de la dictature, l'anonymat, parce que je voulais pas avoir de soucis, quoi. Mais par la suite, j'ai révélé mon identité, parce que je me disais que c'est à double tranchant. Si je suis connue, ça me protégera aussi quelque part. Parce que je me suis déjà fait traiter de macho hein, dans mes dessins avant qu'on sache que j'étais une femme. Mais Non, pas. Oui, c'est vrai que par exemple aujourd'hui, si je veux dessiner un chat dans la rue de manière illégale, parce que le graffiti, on saura que c'est moi, quoi. C'est ça, ça m'embête beaucoup.
On va retrouver Aziz Amami. Est-ce que vous êtes toujours avec nous au téléphone?
Ouais.
Qu'est-ce que pour vous il a soulagé Willis from Tunis, ou qu'est-ce qu'il dit que de façon plus libre parfois que les êtres humains, à votre avis?
Disons que la véritable rencontre que j'ai eue personnellement avec le chat et avec le propriétaire du chat, c'est s'il y a une idée fondamentale sur laquelle on est d'accord. S'il y a eu révolution, c'est pas vraiment contre Ben Ali en soi, c'était contre le Tunisien folklorique, celui qu'on retrouve sur les cartes postales, qui peut se figer un instant, le temps de sortir une image cliché assez belle, assez présentable pour les médias, tout en cachant toute la médiocratie du monde. Et ça, Willis le montrait très très bien. C'est vraiment un truc, je ne sais pas si c'est explicable à d'autres cultures que la culture tunisienne, mais Willis, dans ses caricatures, c'était une forme de caricature de proximité, si on peut dire ça. Ça soulevait toujours les vrais problèmes qui énervent, les trucs que les politiciens font, les trucs que les Tunisiens aussi continuent de faire. Les composants de la médiocratie dans laquelle on baigne, etc. Je sais pas pourquoi, mais personnellement, quelque part, je savais que Willis était dessiné à partir de la Tunisie. L'une des caricatures dont je me rappelle, c'était... Tu te rappelles le petit souk à barbe?
Le souk à barbe. J'en ai fait des barbes, je ne sais plus.
Il faut que vous nous le décriviez, Aziz Amami.
Un barbu a acheté 5 rasoirs Bic offerts, un truc comme ça.
Exactement. Voilà.
Ah oui, je l'ai là. C'était les soldes. Ouais, voilà, pour les 5 soldes. Rasoirs Bic achetés, un barbu offert.
Voilà.
Mais ça, c'est un truc que tu ne peux voir et comprendre directement que lorsque tu vis vraiment dans les quartiers de la Tunisie, lorsque tu regardes ce grand flux de transformation des gens et ce flux qui continue. Nida qui gagne les élections, t'as la moitié des barbes qui disparaissent. Nida fait coalition avec la Nahda. La moitié des barbes qui ont disparu, qui reviennent. Tu vois, c'est...
Et vous parlez de cet humour qui peut venir que de Tunisie et qui est un humour de proximité. Qu'est-ce qui a changé, justement, pour l'humour en Tunisie après la révolution?
Sincèrement, ouais. Avec un président comme Marzouki, par exemple, même connu, je n'aurais trouvé rien à dire. Avec une momie comme Sepsi, même des proches se seraient tués. Parce que le mec, c'est déjà une caricature divine, tu vois.
Ça vous rend le travail compliqué, alors?
Oui, ils font de la concurrence, c'est clair.
Plus compliqué, oui.
Et vous, Aziz Amami, vous êtes militant, blogueur, depuis, même avant la révolution, vous organisez
non, je me considère en tant que citoyen tunisien.
En tout cas, vous êtes engagé, et même avant la révolution, vous aviez organisé des manifestations contre la censure sur Internet.
C'était un exercice citoyen, parce que dans notre état de fait actuel en Tunisie, on est encore des assujettis. Il y a des individus, des personnes qui ont choisi de devenir citoyens et de n'attendre personne, ni le système, ni l'État, ni les ministères, pour agir en tant que citoyen.
Est-ce qu'aujourd'hui, on vous met des bâtons dans les roues
Bah oui. Oui, évidemment, le système actuel ne peut pas vivre avec les citoyens. C'est un système qui se base sur des gens assujettis, sur des moutons qui voteront à leur X, des moutons à qui on dirait que la démocratie n'est autre que les élections et qu'une fois un Parlement élu, tu n'as plus à t'occuper de la chose publique et laisse le Parlement travailler. Le système a besoin que les gens ne soient pas conscients, ne soient pas impliqués. Du coup, moi, je me considère en tant que citoyen, en tant que propriétaire de ma terre, en tant qu'être territorial en marche, quand je considère que les valeurs du contrat social doivent être respectées, je vais à contre-courant du système et le système va à contre-courant de moi. Personnellement, je ne considère pas qu'ils mettent des bâtons dans les roues parce que je considère qu'il n'y a pas de roues, tu vois.
Mais ils ont quand même porté plainte contre toi, les députés
oui,
de l'Assemblée.
Ben oui. Mais peuvent-ils faire autrement? Sincèrement. On ne parle pas le même langage. On ne vit pas dans le même pays. Moi, je suis citoyen, je vis avec des citoyens. Je vis dans les quartiers, je vis avec mes amis, avec ma famille, etc. Et eux, ils vivent dans des cartes postales. Ils vivent dans les rapports du FMI, de la Banque mondiale. Ils vivent dans les couloirs des ambassades. On ne partage pas le même pays. Du coup, à chaque fois que je prends parole et que je parle de notre réalité, ils peuvent en être choqués. Ils ne peuvent qu'essayer de me faire taire, ce qui est normal en soi. Personnellement, je ne blâmerai pas les 17 députés qui ont porté plainte contre moi, bien au contraire. De plus, je cherchais toujours l'occasion, après la dernière affaire, je cherchais l'occasion de regarder un juge les yeux dans les yeux et lui dire mon opinion de citoyen, qu'il n'est qu'un corrompu et que le système des juges est un système corrompu. Et eux, ils m'offrent cette occasion. On ne pourra pas continuer à laisser passer la misogynie, laisser passer l'homophobie, laisser passer un code pénal qui date de plus de 100 ans, juste parce que ce n'est pas le moment. Il est toujours le moment de tout.
Vous avez dessiné quoi, Nadia Chiari, en studio ?
Non, j'ai dessiné le chat qui se balade là dans le...
Lewis qui a disparu.
Voilà. Et c'est vous qui me posez la question. Il fait quoi là, le chat, dans le studio ? Et moi, je réponds, ben là, il marque son territoire. En fait, il est sur ma tête en train de faire pipi.
Yeli, sont prêtes toutes les deux à nous chanter un deuxième morceau. Merci beaucoup, Aziz Amami.
Merci, Aziz.
Merci, Rado.
Bye.
Ouais.
Papa, arrache les enfants. Aïe, ma fille. El Jazaïr, d'Algérie. El Jazaïr.
mains.
Je veux être une femme qui peut être dans la situation de faire ce qu'il faut pour que la lutte continue. Pour nous, la lutte, c'est notre vie. Et nous devons trouver notre vie à travers notre vie, notre humanité, à travers la lutte. Parce que si je me disais, j'aime bien faire des choses. Parce que j'ai beaucoup de passion. J'aime le sport, j'aime la danse. Pourquoi j'aime la musique, j'aime aller au concert. Et si je me suis dit que je voulais seulement faire ça, ce sera vraiment une trahison. Comment est-ce que je peux dire ça quand je sais que pendant que j'étais en prison, il y a des gens partout qui ont fait des sacrifices énormes, des gens que je ne connais même pas maintenant, pour moi, pour ma lutte.
Est-ce que vous avez reconnu la voix d'Angela Davis?
Oui.
Nadia Khari. Je crois que c'est une femme qui vous inspire particulièrement, ou une figure importante.
Oui, c'est un parcours admirable, courageux, et qui me donne l'énergie, quoi, qui me donne beaucoup d'énergie. Elle, mais beaucoup d'autres aussi, des hommes, des femmes qui ont lutté, qui ont donné leur vie, qui ont été torturés, emprisonnés, qui ont subi des choses assez atroces pour des idées. Et ils sont des exemples à suivre et rien que pour eux. Et on doit continuer à, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de continuer à lutter.
Est-ce que parfois on doute ?
Non, j'ai pas de doute au niveau du fait qu'il faut... lutter pour des droits humains, quoi, tout simplement, quoi, pour l'égalité entre les hommes et les femmes,
À quel droit, par exemple, Willis From Tunis veille ? À quoi il veille aujourd'hui en Tunisie ? Quels droits peuvent être, avant de parler d'en acquérir d'autres, lesquels sont menacés ?
Concrètement, je sais que j'ai participé que ce soit à des comités de soutien ou à... J'ai travaillé avec des associations et c'est souvent par rapport à la liberté d'expression, pour défendre la liberté d'expression, mais aussi la liberté de conscience. Il y a un internaute qui a pris 7 ans et demi de prison parce qu'il avait partagé des caricatures du prophète sur sa page Facebook. Il les avait uniquement partagées. Donc j'ai pris avec des amis, des proches, on a créé un comité de soutien pour demander la grâce présidentielle parce que c'était le premier prisonnier d'opinion après la Révolution. Donc c'était quand même grave et bon, il a fallu 2 ans et demi pour y arriver. Mais aussi des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes pour déjà avec la pédagogie pour dire aux femmes que c'est pas normal d'être tapées. De ne pas culpabiliser, parce que c'est ce qui arrive. Et puis, qu'on peut les aider. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur, parce que c'est des histoires qui se passent autour de moi. Et je fais ça parce que j'y crois. Donc, je ne peux pas douter de choses, vraiment des choses fondamentales auxquelles je crois. Il faudrait beaucoup plus se rassembler entre femmes, mais aussi avec les hommes pour les droits des femmes. Heureusement que des hommes féministes existent en Tunisie. Ils sont très courageux d'ailleurs, parce qu'on se moque beaucoup d'eux. Le machisme est quand même prépondérant et très important, par tradition, plus que par religion. Mais la religion conforte cette tradition.
Et vous avez un mari féministe aujourd'hui ?
Il a intérêt, hein. Non, oui, bien sûr qu'il l'est. Il l'est sans se forcer, parce que pour lui, c'est... quand on est un être humain, c'est un rapport d'être humain à être humain.
En tout cas, pour l'avenir de la dictature, vous avez imaginé un manuel du parfait dictateur, Willis From Tunis, qui vient d'être édité. Et alors, si j'ouvre la première page, comment arriver au pouvoir ? Si vous n'avez pas la chance d'en hériter comme dans une monarchie, si votre papa n'est pas dictateur, vous serez obligé d'y accéder par vos propres moyens. Et là, ça commence.
Oui, j'explique comment faire un putsch, un coup d'État, comment truquer des élections, comment acheter les opposants, comment réprimer les manifestants, les opposants. Voilà, comment après, c'est en plusieurs parties, c'est comment arriver au pouvoir, une fois arrivé au pouvoir, que faire, et après, comment installer son système pour rester à tout jamais. Donc, c'est... Bon, j'ai fait ce bouquin surtout pour que... Les gens cessent d'être dans des discours. Enfin, j'ai entendu des trucs assez hallucinants, des gens qui me parlaient de dictateurs éclairés, des gens qui me disaient oui, mais bon, nous, quand même, hein, on a besoin de la matraque pour marcher droit, sinon on fait n'importe quoi. D'autres qui regrettent tout simplement Ben Ali, hein, toute classe sociale confondue, qui disaient bon, moi, on était tranquille. Mais tranquille de quoi, là, on dirait que voilà, la mémoire est très courte, quoi. Donc, c'est un bouquin qui me piqûre de rappel de ce que c'était. Bon, bien sûr, je ne me suis pas inspirée uniquement de la Tunisie. Hein. J'ai trouvé de l'inspiration un peu partout parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de dictature que de démocratie dans ce monde, malheureusement. Et de montrer comment ce système-là fonctionne. Et je pense que même un enfant de 10-12 ans peut le comprendre. C'est assez pédagogique, savoir ce que c'est que la démagogie, le populisme, la corruption. Voilà, des choses toutes simples. Et je ponctue ça de petites citations réelles de vrais dictateurs qui sont beaucoup plus comiques que mes dessins. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Jokes me. The count goes on. 4, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Earth feels drifting on, floating weightless, calling on.
Est-ce que vous avez pu mettre le pot de peinture rouge de côté, Nadia Chiari?
Malheureusement, non. Malheureusement, on l'utilise de plus en plus, quoi, ce pot de peinture rouge. Et d'ailleurs,
encore du sang.
Ouais, ça n'arrête pas de couler et c'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis.
Nous serons partis d'une dictature pour arriver à la révolution et à Willis, chat bien vivant, aux yeux grands ouverts. Pas comme Lewis en studio qui s'est endormi derrière le piano. Et Willis, lui, continue coûte que coûte, depuis Tunis, à raconter le quotidien. Avant la nuit, je dis merci en régie à Boris Pinault, Lionel Quentin à la réalisation et à la technique Jean-Michel Coqui et Cécile Braque. C'était une journée de radio dessinée sur France Culture depuis 6h ce matin jusqu'à minuit, en écho au colloque « Le dessin de presse dans tous ses états » de Cartooning for Peace. Tous les dessins et le récit de cette journée sont à retrouver sur le site internet. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer, disait Beckett. Il est déjà demain, il est minuit. Vous écoutez France Culture, à vous, à nous de poursuivre autant que possible le dessin, le courage et la liberté. C'est l'heure des nuits. Far beneath the shore.